The Collective Laboratory.
Mudam.
The Collective Laboratory est un projet développé par Lina Jeanne et Clémentine Proby au Mudam, le musée d'art contemporain du Luxembourg, de novembre 2023 à janvier 2024, pour aborder, questionner et repenser pratiques artistiques collectives et méthodologies institutionnelles. 6 collectifs européens, évoluant dans les champs de l'édition et de la performance, ont été invités à occuper les espaces d'exposition du musée, les transformant temporairement en résidences d'artistes. Le temps de 2 semaines, leurs membres ont fait des galeries vides leur espace de production, de répétition et d'expérimentation. Dans le cadre de ce projet, Théo Robin Langlois réalise un format radiophonique pour Du Radio en 6 épisodes.
À la bibo de la trabine noire, m'en aller chasser belle gang. M'en revenir les œillets moi, la rip croque et puis en langue. Y a des vers, des humeurs germes, des agents extracarstiques qui surgissent soit par pansperme, qui s'immiscent en prototique. Suspicion des âmes à moite, des sordides micro-souillons. Quand mon cœur bat la sonate pour une croûte vermillon.
On est la collective Moi les autres arts. Moi je m'appelle Bess. À côté de moi, là, il y a Lila et la grande absente aujourd'hui, Cathy. Édition PSD, ça veut dire pratique des savoirs décloisonnés, parce que notre idée, c'est de venir mêler toutes sortes de sources et toutes sortes de genres de textes. Donc, dans les éditions PSD, on retrouve à la fois des textes qu'on écrit nous, qui sont mi-biographiques, mi-poétiques, mais on trouve aussi des articles scientifiques, on trouve aussi des articles historiques, on trouve des œuvres de fiction qu'on vient citer. Et l'idée, du coup, c'est de, en gros, décloisonner la matière qu'on a qui parle d'un sujet pour pouvoir donner une autre teneur à ce sujet.
La première revue s'appelle « Les soleils qui tournent ont des oreilles ». Et le sujet de cette revue, c'est les tournesols et la possibilité de parler avec eux. Un peu ça a fonctionné un peu par anthropomorphisme. On avait un texte auquel on ne savait pas à qui l'adresser. Et on a fini par l'adresser à des tournesols parce que ça ressemble à la fois à des humains et à la fois à des micros. Et du coup, ça nous a entraîné à qui parle aux plantes et qui parle à des interlocuteurs qui ne peuvent pas répondre. Et donc, ça nous a amené au spiritisme. La deuxième édition, elle s'appelle Citrus Maxima X Paradisi. Et elle parle de la différence entre le pamplemousse et les pomelos. Un problème vraiment très important. Qui nous a vraiment torturés au cours d'un repas, parce qu'on a aussi habité pendant longtemps ensemble. Et donc on partageait nos repas, notamment des pamplemousses ou des pomelos, on ne sait pas. Et ça nous a amené au classement scientifique et comment ils sont toujours biaisés par les humains qui sont des scientifiques et qui du coup projettent dans tout le monde qui nous entoure des choses humaines. Et notamment dans les classifications botaniques, les premières classifications botaniques, c'était vraiment... On a trouvé ça très drôle, parce que c'était très sexiste, et il vaut mieux en rire. Notamment quand il y a Carl von Linné qui dit des choses comme « Les fleurs mâles et les fleurs femelles dans les pétales s'unissent devant Dieu. » Et puis, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
Ensuite, la troisième édition PSD, elle s'appelle « Filles de polypropylène bleu ». Et elle porte sur le fil de polypropylène bleu, qui est un fil en plastique bleu utilisé dans l'agriculture industrielle pour, en majorité, entourer les bottes de paille.
Les runeballeurs.
Les runeballeurs, exactement. Et elle est aussi utilisée souvent dans ces exploitations pour faire toutes sortes de petits travaux, réparer des choses, accrocher des trucs. Et du coup, il y en a partout.
Enfin, on commençait presque à se dire qu'elle était tellement partout que ça pouvait être une nouvelle forme de vivant, une sorte de racine fluorescente et industrielle.
Et donc du coup, on lie ce fil de polypropylène à un autre résidu de l'agriculture industrielle qui sont les algues vertes qui envahissent les plages bretonnes. Et donc, du coup, on imagine une sorte d'histoire d'amour entre ces fils de polypropylène et ces algues vertes qui s'hybrideraient.
Ouais, un enfant résidu des déchets de l'agriculture industrielle qui viendrait se venger en étouffant les exploiteurs. Alexandre ouvrit son coffre, sortit son pistolet. Il dévissa le couvercle d'un récipient d'où une vapeur glacée s'échappa. Il en extrayait le futur de toute l'exploitation dont il foulait la boue de ses bottes. Vite, il chargea son pistolet, le glissa dans son dos, en appréciant le contact froid contre sa peau. Il mit ses gants, en donna une paire à son neveu et le pressa de le suivre. À sa droite, il les vit. Elles étaient deux à l'attendre, leurs têtes bloquées dans les cornalis. Alexandre s'approcha de la première et plongea sa main gantée de latex rose fluo dans son anus. Il dégagea deux poignées de bouse qui tombèrent avec un grand « floche » sur les bottes d'Arion qui se tenait tout près. Enfin, une réaction ! C'est vrai que le premier contact, si chaud et enveloppant pourtant, pouvait sembler invasif pour un observateur extérieur, se rengorgea Alexandre, le bras toujours circlu par le colon de la bête. Mais après une inspection plus attentive du visage flasque de son neveu, il dut admettre que ce n'était pas son doigté expert qui provoquait cette réaction stupéfaite. « Eh ben alors, t'as jamais vu ça, mon gars ?»« Non, c'est pas ça. J'ai vu quelque chose dans son hublot. »« Dans son hublot ?» Tu sais, c'est pas vraiment notre domaine, ça. Non, répéta Arion, j'ai vu quelque chose, ça m'a regardé. T'es pas bien dégourdi, toi. S'il y a quelqu'un dans son ventre, c'est moi qui l'y mets. Et si je suis là, ben, c'est qu'il y a personne là-dedans. Et en plus, tu les verras pas là, les petits veaux. Le hublot, c'est sur son estomac qu'il donne, pas dans sa poche. Arion fronça les sourcils, mais ne dit rien. Alexandre se concentra pour saisir le col de l'utérus à travers la membrane du côlon. Il prit son pistolet de sous son t-shirt. Comme un archer qui décoche une flèche, il introduisit le pistolet dans le vagin. Voilà, c'était bon. Les paillettes avaient été déposées. Il soupira d'aise tandis qu'il s'apprêtait à retirer sa main de l'orifice supérieur, quand il sentit soudain une pression inconnue. C'était plus dur et plus fort que la lente pression habituelle des boyaux. Horrifié, Alexandre tira sa main à lui. La chose à l'intérieur l'avait agrippé. Alors qu'il hurlait encore, la vache bousa un enfant en un grand plash. Un enfant en chair et en os, mais dont la peau était rouge-marron et enduite d'une matière visqueuse. Elle semblait aussi épaisse qu'une botte en caoutchouc. Dans le visage flasque et baveux de l'enfant, deux petits yeux humides fixaient maintenant Arion, dont la face ébahie et les lèvres entrouvertes ruisselaient, alors que la bruine commençait à tomber.
Et enfin, le dernier numéro qui est sorti, il s'appelle « Celle qu'on veut pigeonner ». Et celui-ci, c'est un peu différent le processus, parce que c'est pas juste nous trois. Ça a été fait en collaboration avec une amie à nous qui est artiste et chercheuse, qui s'appelle Anastasia Simonin. Et elle, elle a commencé une recherche à l'EHESS à Paris sur les imaginaires pigeons. Et donc, du coup, nous, on a trouvé ça super intéressant, parce que c'est quoi les imaginaires pigeons ? Et en gros, elle analyse ça, c'est toutes les représentations des pigeons et comment elles ont évolué à travers les temps.
Et qu'est-ce qu'elles disent de notre rapport aux pigeons et de la distance qu'on a avec celui-ci ?
Alors, le texte que je vais lire, il s'appelle « Archéologie des trous » de Stacy Hardy. Et c'est un extrait de ce texte qui est dans un recueil de nouvelles éponymes. Voilà, et c'est, du coup, c'est celle qui a donné son nom au recueil. Au début, je creuse la nuit pour que mon trou reste un secret. Dans l'obscurité, le jardin semble plus grand. Il y a le son des grillons et l'odeur familière de la terre, sombre et fertile. Je découvre vite que mes efforts de clandestinité ne sont pas nécessaires. Personne ne s'étonne de voir une femme creuser un trou. Voilà une chose parfaitement naturelle. Tout le monde pense fleurs, légumes, et luxuriance. Je commence à travailler sur mon trou au quotidien. Ce n'est pas tant sa profondeur qui m'intéresse que sa circonférence. Je veux que les parois de mon trou soient lisses et résilientes. Je travaille prudemment en essayant de ne pas ébranler la bordure. Je me mets à genoux au-dessus et il s'ouvre. J'ai peur de combien il devient grand. Je consacre la moitié de mon temps à sa maintenance. Un trou a tellement d'ennemis. Je surveille attentivement la météo, chaque constante, chaque avertissement. La pluie se forme et tombe, le sol est détrempé et glissant. La nuit, le vent souffle. Je crains l'avalanche quand les granules de sable se détachent et tombent au milieu. Parfois, j'entends des choses, un scarabée qui gratte, un ver de terre qui glisse avec constance. Souvent, je sors du lit et me glisse dehors. L'herbe est froide et morte sous mes pieds. La terre tremble. Mon trou est en train d'attendre. Il frémit, instable dans la lueur de la lune.
Comme on l'a dit, on habite à Bruxelles. Et un jour, le bus 21, celui qui nous ramenait à notre appartement, a été dévié parce qu'il y avait un gros trou dans la route. Et donc, on est allé voir ce trou. Et en effet, il était très gros. Et donc, d'un seul coup, on a eu l'impression que sous la route, il y avait du vide. Et ça nous a fort marqué. Et surtout que, en fait, c'est un phénomène assez courant, notamment à Bruxelles. Récemment, l'avenue Buile s'est effondrée.
Buile.
Oui.
On va prononcer à la française.
et donc, ça nous a fait nous intéresser notamment aux dolines géantes. Qui sont aussi des effondrements. Et on dirait vraiment, visuellement, c'est très marquant parce que c'est des trous qui sont en général très circulaires.
Là, notre travail, du coup, c'est essayer de relier ces trous et quelles images, quelles sensations, quels sentiments ils évoquent et relier ça à des questions de savoir. Et il y a tout un pendant aussi du sujet des trous qui est aussi en cours de réflexion. C'est aussi tout le pendant trou du cul, parce qu'on ne pouvait pas parler des trous sans parler du trou du cul. On avait l'impression. C'était une des choses qu'on nous disait quand on disait le mot trou. Et du coup, il y a un peu l'idée d'explorer aussi la représentation de certaines pratiques sexuelles. On est en train de regarder des auteurs comme Gail Rubin, par exemple, qui a écrit un texte qui s'appelle Les Catacombes.
Exactement, qui parle d'un club de fisting dans les années 70 à San Francisco. Et c'est un des textes qui m'a le plus marqué quand j'ai fait mon master en études de genre, parce que c'est vraiment une description super tendre et super détaillée de ce club, avec des pratiques qui sont relativement quand même extrêmes, mais c'est décrit avec beaucoup de tendresse. Et du coup, j'avais envie qu'on réutilise ce texte quelque part. Que peut proposer la technologie en termes de possibilités narratives. Ce n'est pas le centre de ce qui nous intéresse dans la science-fiction. Moi, l'un de mes textes préférés, c'est l'auteur des graines d'acacia. Ça parle de la possibilité que les animaux parlent et une littérature qui juste prend d'autres formes que sur le papier. Cette possibilité-là m'excite beaucoup plus que toutes les fusées qu'il puisse y avoir.
Et Memories of a Woman in Space, The Space Woman, je ne sais pas. C'est aussi ça, c'est l'histoire d'une linguiste qui part en mission sur différentes planètes et qui, du coup, avec les outils qu'elle a et les connaissances qu'elle a, doit essayer de comprendre les langages des autres, de l'autre, quoi. Et du coup, c'est vraiment cette question de l'altérité et de comment on se positionne par rapport à l'inconnu et à l'autre, et avec quelle position est-ce qu'on veut faire ça, aller à la rencontre ou à un truc comme ça. Et moi, je trouve que... enfin, c'est vrai que c'est toujours cette question de l'autre et des relations qui se créent dans cette altérité qui nous intéresse.
Pour moi, l'une des choses qui est très bien avec le fait de faire partie d'un collectif, c'est que justement, ça enlève le poids de l'autorat avec tout ce que ça représente face à toute l'histoire de l'art. Et du coup, genre, ce poids qui s'enlève vaut complètement la peine face à tous les compromis qu'on doit faire. Et en fait, on sait qu'on veut le bien de ce qu'on va produire à la fin toutes et qu'on prend autant à cœur toutes les trois ce qu'on fait, qui fait que nos conflits sont... si un conflit dure trop longtemps, au bout d'un moment, l'une de nous va céder, mais ce ne sera pas trop une défaite, parce que en fait, ça va être bien à la fin. Et en fait, cette confiance qu'on a les unes dans les autres, c'est assez, et le fait qu'on soit amis, c'est assez déterminant dans notre pratique.
Oui, ça c'est sûr. Enfin, c'est clair que du coup, les dynamiques de travail, elles sont complètement liées aussi à nos dynamiques interpersonnelles. Enfin, c'est un peu d'intelligence émotionnelle, quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. C'est beaucoup ça, l'apprentissage de travailler à plusieurs, moi j'ai l'impression.
Moi, les autres arts, ça vient d'un schéma. En fait, en troisième année, on nous demandait d'expliquer notre pratique artistique en schéma. Et Cathy et Bess, elles avaient fait deux schémas super compliqués avec le langage, avec la matière, avec les outils et tout plein de choses comme ça. Et moi, j'avais juste fait un schéma avec moi, les autres, une flèche qui va dans les deux sens et au-dessus, art, avec un point d'interrogation. Et voilà.
C'est resté, quoi.
Maintenant, on a enlevé le point d'interrogation parce qu'on est des artistes.
Plus de questions.